La tombe d'Ali Bellus de Vincent de Blasco Ibanez, traduction Félix Ménétrier. C'était, dit le sculpteur Garcia, au temps où, pour gagner mon pain, je m'étais mise à restaurer des statues et à redorer des autels, courant ainsi presque tout l'ancien royaume de Valence. J'avais une commande importante, il s'agissait de remettre en état le maître-autel de l'église de Bellus. Une vieille dame s'était engagée à payer ce travail. Je me rendis là avec deux apprentis, qui étaient à peu près de mon âge. Nous logions chez le curé, un homme incapable de tenir en place. Sa messe à peine terminée, il sellait son mulet pour faire visite à ses confrères des paroisses voisines, où il empoignait son fusil et, enveloppé d'un long manteau, coiffé d'une calotte de soie, il s'en allait massacrer les oiseaux de la huerta. Tandis qu'il courait le pays, moi et mes deux compagnons, juchés dans l'église, sur les échafaudages du grand hôtel, œuvre compliquée du XVIIe siècle, nous faisions briller les dorures et nous rafraîchissions les joues d'une troupe de petits anges qui, pareil à des gamins, folâtraient dans les feuillages. Le matin, après la messe, solitude absolue. L'église était une ancienne mosquée aux murs tout blancs. Au-dessus des autels latéraux, les arcades mauresques dessinaient leurs courbes gracieuses. Tout l'édifice respirait cette atmosphère de silence et de fraîcheur qui semble baigner les constructions arabes. Par la grande porte ouverte, nous voyions la place solitaire inondée de soleil, nous entendions les cris de ceux qui s'appelaient au loin à travers la campagne et troublaient ainsi la paix du matin. De temps à autre, les poules, irrévérencieuses, entraient dans l'église. Elles se promenaient devant les autels en se dandinant avec gravité et finissaient par fuir épouvantées de nos chants. Il faut dire que, familiarisés avec le milieu, nous nous trouvions sur l'échafaudage comme dans un atelier. Ce monde de saints, de vierges, d'anges immobiles, couverts de poussière par les siècles, je lui faisais hommage de toutes les chansons que j'avais apprises au théâtre quand je fréquentais le paradis. À peine leur avais-je chanté « Ô céleste Aïda » que je reprenais les voluptueuses roulades de Faust dans le jardin. Aussi étais-je fort agacée l'après-midi de voir l'église envahie par quelques femmes du village, commères effrontées et questionneuses qui suivaient le travail de mes mains avec une attention importune, et même osait me critiquer si je ne faisais pas assez briller le feuillage d'or et si j'épargnais le vermillon sur la joue d'un petit ange. La plus hardie et la plus riche, en juger par ses airs de supériorité, montait parfois sur l'échafaudage, sans doute pour me faire apprécier de plus près sa rustique majesté. Elle restait là, et je ne pouvais bouger sans buter contre elle. L'église était pavée de grandes briques rouges. Au centre, dans un cadre de pierre, était enclavée une dalle énorme avec un anneau de fer. Un après-midi, je me demandais ce qu'il pouvait y avoir là-dessous. Accroupi sur la dalle, je raclais avec un outil de fer la poussière durcie des joints, lorsque cette matrone, Madame Pasquala, entra dans l'église. Elle parut fort étonnée de me voir ainsi occupée. Elle passa toute la soirée à mes côtés, sur l'échafaudage, sans faire cas de ses compagnes qui bavardaient à nos pieds. Elle me regardait fixement, n'osant dire ce qui lui brûlait les lèvres. Enfin, elle n'y tint plus. Elle voulait savoir ce que je faisais tout à l'heure sur cette dalle que personne au village, même parmi les plus vieux, n'avait jamais vu lever. Mes paroles évasives avivèrent encore sa curiosité. Pour me moquer d'elle, je me livrais à un jeu d'enfant. Je m'arrangeais pour que tous les après-midi, à son entrée, elle me trouvât en contemplation devant la dalle ou occupée à en nettoyer les joints. La restauration terminée, nous démontâmes l'échafaudage. L'autel brillait du plus vif éclat. Tandis que j'y jetais le dernier coup d'œil, la curieuse commère tenta encore une fois de me tirer mon secret. « Dites-le-moi, peintre, supplia-t-elle, nul n'en saura rien. » Le peintre, c'était ainsi qu'on m'appelait, était alors un jeune homme jovial, et il devait partir le jour même. Il trouva fort à propos d'ahurir l'impertinente par une légende absurde. Je lui fis promettre, je ne sais combien de fois, très solennellement, de ne rien répéter à personne. Puis je lui servis autant de mensonges que m'en suggéra mon imagination de grand amateur de romans. J'avais levé la dalle par des moyens magiques que je ne révélais point, et j'avais vu des choses extraordinaires. D'abord un escalier profond, interminable, puis un labyrinthe de galeries étroites, enfin une lampe qui brûlait sans doute depuis des centaines d'années, et couché sur un lit de marbre, un homme très grand, les yeux fermés, avec une barbe descendant jusqu'au ventre, une énorme épée sur la poitrine et sur la tête un turban avec un croissant. « Ce doit être un mort !» interrompit la commère avec suffisance. « Oui, un mort !» La belle malisque de le deviner, il était enveloppé d'un manteau brillant comme de l'or. À ses pieds, une inscription en lettres indéchiffrables que le curé lui-même ne comprendrait point. Mais comme j'étais peintre et que les peintres savent tout, je l'avais lue facilement. Elle disait « Sigi Alibellus, sa femme Sarah et son fils Michael lui dédient ce dernier souvenir. » Un mois après, j'appris à Valence ce qui était arrivé aussitôt après mon départ. Le soir même, Madame Pasquala, jugeant qu'elle avait été assez héroïque en gardant le secret pendant quelques heures, avait tout dit à son mari, qu'il avait répété le lendemain au cabaret. Stupéfaction générale! Passer toute sa vie dans le village, entrer chaque dimanche à l'église, et ne pas savoir qu'on a sous les pieds l'homme à la grande barbe, le mari de Sarah, le père de Michael, le Alibellus, incontestablement le fondateur du village. Et tout cela, un étranger l'avait vu, sans autre peine que de se rendre là. Et eux, point. Tonnerre. Le dimanche suivant, dès que le curé sortit du village pour aller dîner chez un confrère du voisinage, une bonne partie de la population courut à l'église. Le mari de Dame Pasquala tâtonna le sacristain pour lui enlever les clés. Tous, même l'alcade et son secrétaire, entrèrent avec des pics, des leviers et des cordes. Ce qu'ils suèrent. Depuis 2 siècles au moins, la fameuse dalle n'avait pas été levée. Les garçons les plus robustes, leurs biceps à l'air, le cou gonflé par l'effort, s'acharnaient vainement à la remuer. « Hardi, hardi !» cria Pasquala, improvisé capitaine de cette troupe de rustres. « Le mort est là-dessous !» Animé par elle, il redoublait d'efforts, si bien qu'après avoir pendant une heure grogné, juré et sué à grosses gouttes, ils arrachèrent, outre la dalle, le cadre de pierre, et firent sauter encore une grande partie du pavé. On eût dit que l'église s'écroulait. Mais ils se souciaient bien du dégât. Ils n'avaient Dieu que pour le sombre abîme qui venait de s'ouvrir à leurs pieds. Les plus vaillants se grattaient la tête avec une visible hésitation. Enfin l'un d'eux, plus hardi, se fit attacher une corde à la ceinture et se laissa glisser, en murmurant un credo. Le voyage ne fut pas fatigant, sa tête était encore visible que ses pieds touchaient déjà le fond. « Qu'est-ce que tu vois ?» demandait anxieusement ceux qui étaient au-dessus de lui. Il s'agitait dans cette obscurité et ne se heurtait qu'à des tas de paille, débris de vieilles nattes jetées là depuis des années, qui, pourries par les infiltrations du sol, dégageaient une odeur insupportable. « Cherche, cherche !» criaient les paysans dont les têtes formaient autour de la sombre ouverture un cadre gesticulant. Mais l'explorateur n'attrapait que des bosses, car à chaque pas il se cognait le front contre les murs. D'autres gars descendirent, lui reprochant sa maladresse, mais ils durent à la fin se convaincre que ce puits n'avait aucune issue. Tous se retirèrent, penauds, sifflés par les gamins qui étaient vexés d'avoir été tenus hors de l'église, et par les femmes qui criaient toutes à la fois, heureuse de rabattre le caquet de Dame Pasquala. « Comment va Alibellus ?» lui demandait-on. « Et son fils, Michael ?» Pour comble de malheur, quand le curé vit dans quel état on avait mis le pavé et fut au courant des faits, il entra en fureur. Il voulait excommunier pour sacrilège tout le village et fermer l'église. Pour le calmer, les auteurs de l'exhumation, atterrés, durent promettre de faire exécuter à leurs frais un pavement plus beau. « Et vous n'êtes jamais retourné là-bas ?»« Je m'en garderai bien. Plus d'une fois, j'ai rencontré à Valence quelques-uns de mes mystifiés. En causant avec moi, ils riaient de l'aventure, la trouvaient fort drôle, et, ô vanité humaine, assuraient qu'ils étaient de ceux qui, soupçonnant la malice, étaient restés à la porte de l'église. Ils finissaient toujours par m'inviter à retourner là-bas, m'amuser un jour avec eux, histoire de faire un bon repas. Au diable, je connais mes gens. » Il m'invite avec un sourire angélique, mais instinctivement il cligne de l'œil gauche, comme s'il mettait déjà leur fusil en joue.